Avec un nouveau rendez-vous radio sur nos radios associatives Loire Sud, Radio Ondaine et Radio Dion, on vous le rappelle, nous sommes en direct tout au long de ces deux journées de Tatou Juste, 10h-19h, ouverture-fermeture de ce rendez-vous de l'écologie à Saint-Etienne, Parc Expo Hall B. Nous sommes toujours ici sur site, sur place, pour réaliser ce rendez-vous radiophonique aussi, être un relais écho en quelque sorte de Tatou Juste de ce qui s'y déroule, et notamment de nombreuses réflexions, nombreux échanges, discussions qui portent sur différentes thématiques. Et on se retrouve là à 11h30 ce matin pour un nouveau rendez-vous en table ronde de discussion autour de la lutte des sucs. On va en parler d'ici un instant. On invite bien sûr le public à venir nous rejoindre ici sur l'espace radio et éventuellement même participer, bien entendu, on le rappelle, c'est la règle, un micro peut être à votre disposition et vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez et poser les questions si nécessaire, bien entendu. On est avec deux invités aujourd'hui et ce matin au micro. Nathalie Collet est avec nous, bonjour. On va brancher les micros. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bienvenue sur Dio et sur Radio Ondaine. Vous êtes bien membre du collectif des Sucs. On
oui,
va présenter de quoi il s'agit. Vous êtes habitante du Pertuis. Alors le Pertuis, on est là entre Loire et Haute-Loire. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est...
C'est un col, déjà.
C'est un col.
Le Pertuis en Languedoc veut dire passage. Donc en fait, quand vous rentrez en Haute-Loire par la RN 88, vous passez obligatoirement par le col du Pertuis. Voilà.
Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que c'est un col, c'est un passage. Et effectivement, ce passage est un petit peu remis en question. Un drôle de projet qui secoue un petit peu là-bas la région, le Pertuis et son environnement proche. C'est un projet routier, on peut dire ça. Hein. En tout cas, c'est un projet de 2x2 voies de la RN 88, cette fameuse RN 88, qui est en projet de déviation. C'est de cela dont il s'agit et dont on va parler durant ce rendez-vous aujourd'hui. À vos côtés, Nathalie, il y a Renaud Domas, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue aussi au micro de nos radios. Vous êtes, vous, vice-président de France Nature Environnement, 43, Haute-Loire.
C'est bien ça.
Et vous êtes également élu, puisque vous êtes conseiller régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant des écologistes.
C'est ça, depuis le mois de juin 2021.
D'accord, voilà, donc un élu à nos côtés. Et on va parler, bien entendu, aussi de cette instance du Conseil régional, très largement concernée, bien sûr, par ce projet.
Tout à fait.
Alors, on va justement présenter un petit peu les choses et camper le décor, comme on dit. De quoi s'agit-il concernant ce projet routier de déviation? Qu'est-ce qu'il en est exactement? On va tenter de resituer un petit peu les choses, de refaire aussi un petit historique, forcément.
Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un projet du passé. C'est un projet qui, initialement, date de 1985, au moment où la loi GLAT a été mise en place, c'est-à-dire la loi autour des grandes liaisons d'aménagement du territoire. Donc c'est une période où, forcément, le tout routier était de mise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devait relier toutes les grandes villes, toutes les grandes métropoles, essentiellement par des grandes voies rapides. Alors, c'est en 1992 que la RN 88 a été classée en GLAT. Donc la RN 88, c'est la route entre Lyon et Toulouse. Donc qui devait devenir un grand axe routier important en France. Et c'est ensuite en 1997 qu'a été mis en place la déclaration d'utilité publique. Donc vous voyez, c'est pas récent. Donc 1997, ça veut dire qu'une DUP est valide pendant 10 ans. Donc elle est aujourd'hui caduque depuis 2007. Il s'était rien passé depuis cette date. L'État ne fixant pas cette route comme une priorité, puisque en fait il y a sur ce tronçon-là, en tout cas entre donc Yssingeau et le Puy, puisque c'est de cet endroit-là qu'il s'agit, mais en fait il y a finalement assez peu d'accidents graves et en plus le trafic routier est de l'ordre de 14 000 véhicules jour. Et pour avoir un projet de 2x2 voies, l'État se fixe comme limite, avant de vouloir dépenser autant d'argent public, se fixe la limite de 20 000 véhicules jour. Donc on est bien en deçà de la fréquentation, et puis il n'y avait pas d'enjeu. Donc en fait, voilà, l'État ne faisait rien, du coup, à partir de là. Et c'est au moment, on va dire, où Laurent Wauquiez, politique de Haute-Loire, avait pris les rênes de la région, qu'il a décidé de relancer ce dossier. Alors pour nous, on le voit, on se rend compte qu'il l'utilise comme un fait politique en disant qu'il est aujourd'hui le grand maître de la Haute-Loire et qu'il peut imposer comme ça ses choix à tout le département. Et donc c'est en 2019 que la région demande à l'État d'avoir la maîtrise d'ouvrage, parce que sur ce projet-là, du coup de 226 millions d'euros sur le papier, alors on a vu bien d'autres exemples en Haute-Loire où on a des sols qui sont très argileux, notamment autour de la déviation du puits, notamment, où au final le budget a explosé, a été multiplié par 3 à partir du dossier initial. Donc là, on imagine que sur 10,5 km, parce que c'est ça qui est l'enjeu, c'est de recréer une infrastructure autoroutière en milieu vierge de 10,5 km. Donc c'est un projet pharaonique, il y a 13 ouvrages d'art, dont un viaduc de 300 mètres. Ça correspond en gros à une autoroute de montagne, quoi, comme ce qui se fait en Savoie ou en Haute-Savoie. Donc c'est un des plus gros chantiers routiers de France qui potentiellement se déroulera sur notre territoire. Et donc la région a décidé de mettre 90% du financement de ce dossier, sur ce dossier, donc ça, à hauteur de 198 millions d'euros, alors que c'est complètement hors de son champ de compétences. La région a un champ de compétences autour des transports, mais c'est autour des transports collectifs. C'est de mettre en place des bonnes structures sur les voies ferrées, notamment les TER, et aussi tout ce qui est transport par car, autocar, faire des liaisons régulières sur tous nos territoires pour qu'il n'y ait pas de personnes enclavées sur nos territoires. Donc là, on voit qu'il sort de son champ de compétences, comme très souvent, et il balance de l'argent public, donc plus de 198 millions d'euros sur le papier. Et donc, c'est déjà un premier choc.
Donc c'est un budget très, très important, bien sûr. Le restant étant à charge de l'État ?
De l'État et du département. Quand la région met 198 millions, l'État met à peu près 15 millions et le département autour de 15 millions aussi. Donc pour une route nationale, c'est complètement aberrant, ça se fait jamais. L'État est garant et toujours maître d'ouvrage sur les routes nationales.
Alors plus de 226 millions d'euros pour 10,5 km, parce qu'en gros, ce projet de déviation, donc il se porte sur cette distance très courte, ce qui paraît impressionnant, de vouloir assurer cette déviation et ce sorte de contournement finalement du Pertuis. C'est entre Pertuis et Saint-Austien, 10,5 km, qui viennent du coup impacter forcément aussi toute la campagne environnante et donc la nature vierge. Pour le coup, ce sont des parties boisées qui là sont forcément concernées. C'est aussi un écosystème qui est menacé finalement.
Oui. Alors oui, moi je suis habitante du Pertuis, donc extrêmement bien sûr concernée. Donc c'est 10,5 km, je voulais juste préciser qu'actuellement, pour ceux qui traversent la Haute-Loire, en fait ce projet à 2x2 voies fait de Yssingeaux à Saint-Austien. Il y a déjà une partie qui est en cours et bien très bien avancée, mais entre Yssingeaux et le Pertuis. Cette partie-là, à la lutte des sucres entre autres, on ne contredit pas ce projet. Déjà, c'est un projet qui, au niveau environnemental, est moins coûteux, puisque c'est 2 voies à côté des 2 voies actuelles. Donc, c'était du remblai, déjà. C'était pas de la nature vierge. Ensuite, les accidents sont nombreux entre Yssingeaux et le Pertuis. Enfin, les quelques accidents qu'il y a, on va dire que depuis 20 ans, il y a eu 6 accidents mortels. Et sur 6 accidents mortels, il y en a 5 qui étaient sur ce tronçon, Yssingeaux et le Pertuis. Après, ce qu'on proteste, c'est le fait que cette déviation entre le Pertuis et Saint-Austien est, comme l'a dit Renaud, sur des espaces vierges. C'est-à-dire qu'il va y avoir à peu près 150 hectares de détruits. Dans ces 150 hectares, il y a 60 hectares de forêt qui sont principalement justement sur les communes du Pertuis. Il y a 20 hectares de zones humides qui sont aussi 10 hectares sur le Pertuis et à peu près encore 10 hectares sur Saint-Austien. Quand on connaît l'utilité extrêmement importante des zones humides sur l'équilibre et aussi sur la lutte contre le réchauffement climatique. Et ensuite, le reste, donc, ce qui fait donc 80 hectares de terres agricoles. Donc, et de terres agricoles en plus très particulières qui sont sur Saint-Ostien parce qu'elles sont planes. Et en Haute-Loire, des terres agricoles planes, eh bien, c'est une grosse, grosse richesse. Voilà. Alors, donc ça, c'est difficilement envisageable, en fait, quand on habite dans le coin, quand on est défenseur un petit peu de l'environnement et de la biodiversité. Après, certes, moi, je suis habitante du Pertuis. La route emmène des nuisances. C'est sûr, 14 000 véhicules jour, le Pertuis et Saint-Ostien apportent des nuisances. Donc, à la lutte des SUC, nous ne sommes pas contre un projet, contre réfléchir pour diminuer ces nuisances. Mais en tout cas, pas celui-ci. On veut proposer d'autres alternatives par rapport à ça. Donc ça, c'est important de le dire parce que c'est dans un contexte, en effet, qui devait relier Lyon-Toulouse en quatre voies, qui s'est quand même arrêté pas mal après le Puy aussi, dans les régions comme l'Ariège. Il y a beaucoup de projets qui ont été abandonnés. Puisque l'heure, en effet, comme le dit Renaud, c'est un projet du passé, l'heure n'est plus à développer la route. On en est un peu tous conscients, les gens qui viennent un petit peu ici. Ce n'est pas au développement d'une route, elle n'est pas utile. Ensuite, en tant qu'habitante de la Haute-Loire, moi, ça fait 27 ans que j'habite ici, je ne suis pas originaire de la Haute-Loire, mais moi, je suis venue au Pertuis, justement, grâce à la route aussi, mine de rien. Je travaille à Monistrol, je l'emprunte tous les jours. Mais on est déjà désenclavé. Le projet qui a eu lieu il y a 30 ans sur le viaduc du Lignon, pour ceux qui connaissent, pour la Deux Voies, je ne pense pas que j'aurais été contre. Il fallait désenclaver la Haute-Loire à cette époque. Mais ça y est, elle l'est. Moi, j'ai 3 enfants étudiants, Paris, Marseille. Ils ne se sentent pas du tout enclavés quand ils viennent à la maison. Donc, on est désenclavé. Et ce n'est pas maintenant, en rajoutant 10 km de déviation, pour 3 minutes de gagner, voilà, à ce prix-là, qu'on va encore plus désenclaver. Voilà. Et au niveau priorité, je lisais récemment que la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, développe 226 millions d'euros. Alors, ce qui m'a fait tiquer, c'est exactement la somme, nous, développée par la région RA, va développer 226 millions d'euros pour réhabiliter des lignes de TER et des lignes de bus. Et nous, la région Auvergne-Rhône-Alpes, on va débloquer exactement la même somme pour de la mobilité individuelle. Et il nous semble que là, dans la balance, on va dire, c'est pas envisageable.
Ouais. Voilà. Donc c'est un projet que vous dénoncez, catastrophe écologique, quoi, finalement. On va revenir sur les propositions que vous faites, mais juste auparavant, le projet, du coup, en est où véritablement aujourd'hui? Parce que, chose surprenante, la DUP ne semble plus d'actualité, obsolète depuis plus de 10 ans maintenant. Malgré tout, on a vu des travaux d'aménagement qui ont pu débuter sur le secteur du Pertuis, du défrichage, du déboisement. Donc le projet est véritablement engagé, entamé. Il semble être entre parenthèses aujourd'hui. Alors éclairez-nous un petit peu sur ce qu'il en est effectivement à ce jour.
Alors en fait, du coup, la procédure de l'enquête publique pour ce dossier a été faite l'année dernière entre le 15 juillet et le 14 août. Donc on en rigolait au printemps en disant ils vont faire ça, mais on était sous la forme de l'ironie, mais ils ont bien fait ça en plein été, l'enquête publique. Donc il y a eu un gros travail de lobbying de Laurent Wauquiez, de pression politique, où tous les maires, toutes les agglomérations ont dû se mettre sous la contrainte de la région pour approuver politiquement ce nouveau dossier. Ça a été le même cas pour toutes les chambres consulaires. La chambre d'agriculture a dit, malgré que ça allait défoncer 80 hectares de terres agricoles, pour eux c'était un projet d'intérêt agricole, mais on sait bien que tout est sous pression, tout est lié, puisque la plupart des maires de Haute-Loire, ben, la région est leur principal financeur. Donc même quand les municipalités, quelques élus ont soumis l'idée de voter à bulletin secret, par exemple, c'était le cas à la com d'agglo du Puy, en présence de Laurent Wauquiez, bah, il était interdit de voter à bulletin secret. Donc sous le regard du président de la région, les élus devaient approuver en grande pompe ce nouveau dossier. Donc ensuite, il y a eu l'arrêté préfectoral donc, d'autorisation de travaux, qui est en fait un arrêté d'autorisation de destruction d'espèces protégées et de destruction d'habitats naturels, puisque, comme vous le savez, y a, sur des espaces comme ça, vierges, il y a énormément d'espèces protégées, puisque ça correspond à peu près à 100 espèces d'intérêt patrimonial qui sont concernées, 16 habitats d'intérêt communautaire. Donc c'est pas rien. Donc il y a eu des avis négatifs du Conseil national de protection de la nature et un avis extrêmement réservé de l'autorité environnementale. Donc fi de ces avis, le préfet a autorisé par un arrêté le 28 octobre. Donc là-dessus, malgré des rencontres assez constructives, ce qui nous paraissait assez constructif avec le préfet, le préfet a pris cette décision. Donc après, on est parti en action juridique. Donc il y a 3 recours sur le fond qui ont été déposés. Donc 3 recours au tribunal administratif. Donc un associatif lié justement aux problématiques d'artificialisation des sols, de destruction d'espèces protégées, d'aucun chiffre autour du bilan carbone de cette action, sachant qu'on sait très bien que en roulant plus vite et plus longtemps, puisque aujourd'hui on fait cette route en 8 km et que le projet la rallonge de 2 km. Donc on va rouler plus vite et plus longtemps, donc on va émettre encore plus de gaz à effet de serre. Puis on sait très bien que ce type d'aménagement va créer un appel d'air où justement ce qui était prévu dans cette glatte, c'est de soulager la 45. La 7, c'est-à-dire essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de camions dans la vallée du Rhône pour les désaxer autour de la traversée de la Haute-Loire, de la Lozère et ainsi de suite jusqu'à Toulouse. Donc ça veut dire que potentiellement, ce que les habitants de la Haute-Loire ne comprennent pas aujourd'hui, ne perçoivent pas, c'est que la Haute-Loire deviendra une autoroute à camions. Donc il y aura encore plus de camions, donc encore plus d'accidents. Donc voilà, c'est les arguments de Laurent Wauquiez autour de la sécurité ne tiennent pas la route. Donc on a fait ces recours. Et en urgence, Laurent Wauquiez, comme par hasard, juste avant les élections régionales, alors que ce n'était pas du tout prévu dans l'arrêté préfectoral, a voulu mettre un petit coup de pression, démarrer les travaux, donc ce qu'on appelle de dégagement des emprises, au mois de janvier et février de cette année. Donc ça a duré 3 semaines et ça a été un carnage. C'est-à-dire que sur l'arrêté préfectoral, il y avait de nombreuses contraintes environnementales dont ceux qui travaillent sur le terrain devaient tenir compte. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant de la veille sur le terrain pour vérifier que aucune mesure de l'arrêté préfectoral n'était suivie. C'est-à-dire qu'ils ne devaient pas, par exemple, travailler alors que les températures étaient inférieures à 0 degré, ils travaillaient à moins 5 degrés, ils devaient pas travailler la nuit, ils ont travaillé la nuit, ils devaient mettre en défend tout un tas de secteurs naturels intéressants pour pas que les engins aillent les détruire avant qu'il y ait eu l'évacuation d'une partie des espèces protégées. Donc tout ça n'a été pas suivi. Donc là encore, on a essayé de porter plainte. On a voulu faire venir la gendarmerie, qui ne sont pas venus. On a voulu faire venir la police de l'environnement, l'AFB aujourd'hui, l'Agence française de la biodiversité. Ils ne sont pas venus. On a dû payer un huissier pour constater les dégâts et le non-respect de l'arrêté préfectoral pour porter plainte. On a porté plainte et ça a été classé sans suite parce qu'on n'avait pas la preuve que des espèces protégées avaient été détruites alors que... voilà. C'était quasiment sûr. Donc en tout cas, aujourd'hui, là où on en est, c'est que ce travail de dégagement des emprises a été fait en partie, c'est-à-dire couper les arbres de la forêt et couper des haies, en laissant ici ou là quelques vieux arbres à cavité. Donc pour nous, ça aurait dû être fait en septembre cette année, après tout un tas de mesures de réduction d'impact. C'est-à-dire dans l'été, il devait y avoir... enlever des plantes protégées, les mettre ailleurs. Et là, dans l'absolu, il devait y avoir les mesures compensatoires du chantier qui auraient dû être mises en place pour que les espèces soient déplacées directement dans les espaces qui auraient été prévus en termes de mesures compensatoires. Les mesures compensatoires, aujourd'hui, elles ne sont même pas mises en œuvre. Il y a 150 hectares qui sont prévus en termes de mesures compensatoires. Ces 150 hectares ne sont pas encore acquis, il y en a très peu. C'est des toutes petites parcelles complètement morcelées. Il y a un hectare par là, un hectare par là. Donc c'est sur autour de 50 km au moins autour du tracé. Donc ça n'a aucune cohérence écologique. Donc ces mesures compensatoires, c'est vraiment du flanc. Et même avec ce flanc, ils ont commencé des travaux sans même avoir déplacé du coup ce qui aurait dû l'être pendant l'été. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ce qu'on a appris, c'est le début des travaux serait potentiellement au second trimestre 2022. Donc là, on s'y prépare à fond. On travaille encore sur les alternatives, dont on parlera tout à l'heure. Et on essaye de dire aux gens du coin que ces alternatives seront tout aussi efficaces par rapport aux problématiques qu'ils subissent. Et en plus de ça, beaucoup moins négatives sur leur carte de vie, sur l'environnement, sur l'agriculture locale, sur le tourisme de nature qui s'y prête dans ces sucs et ce mégal. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Alors, les recours n'ont pas été jugés sur le fond et on a demandé un arrêté suspensif en Conseil d'État. Donc ça, on verra au cours de l'hiver, normalement, si le Conseil d'État nous suit, pour suspendre les travaux, au moins le temps que les recours sur le fond soient étudiés correctement.
Oui, effectivement, il s'agit de s'armer à la fois en termes juridiques et d'être accompagné. C'est aussi un coût, forcément. Ce n'est pas chose évidente. Je parle là de l'organisation aussi de résistance et de lutte qui se met en place. C'est complexe aussi comme travail et comme parcours, quoi, finalement. Alors, la lutte des sucs, vous vous êtes mobilisé depuis déjà quelques mois, quelques années sur ce projet. Une autre question qui se pose en termes d'espace là, et de territoire, quoi, finalement, c'est l'accès même à la terre, quoi, finalement. Pour engager ces travaux, la question qui se pose aussi aujourd'hui, c'est le foncier.
Oui.
Si vous pouviez aussi peut-être préciser ce point.
Voilà. En fait, les travaux n'ont pas pu vraiment commencer, comme le disait Renaud, parce que, comme on dit, la région n'a pas la maîtrise foncière. C'est-à-dire qu'il faut, il leur faut les 100 fameux 140 hectares, déjà sur le tracé, qu'ils n'ont pas acquis avant la fin de la déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire en 2007. Tous les terrains ne sont pas acquis. Et de plus, le préfet a demandé à 150 hectares de terrains de compensation. Donc actuellement, la région se lance dans un projet alors qu'elle n'a pas tous les terrains acquis. Il y a encore quelques propriétaires, les irréductibles gaulois, on pourrait presque dire, ou anti-ligériens, qui n'ont pas vendu de parcelles qui sont vraiment dans l'emprise de la 4 voies et qui la région n'a aucun moyen de les acquérir. Puisque maintenant, comme la DUP est obsolète, elle doit absolument les acquérir à l'amiable. Donc ça, c'est un souci pour la région. Nous, évidemment, c'est un levier pour la lutte aussi. Il faut savoir qu'il y a un collectif de propriétaires indépendants de la lutte qui s'est créé. Alors ces propriétaires, ce sont des propriétaires et des propriétaires agriculteurs. C'est aussi des propriétaires, parce que c'est aussi des gens, en fait, issus d'agriculteurs, qui ont eu par héritage ces parcelles, qui habitent parfois Clermont-Ferrand, Lyon, Saint-Étienne, qui sont plus sur le terrain, mais par contre, qui sont nés au Pertuis, qui venaient en vacances au Pertuis quand ils étaient petits, et qui sont défenseurs de l'environnement, et qui ne voient pas du tout l'utilité de ce projet. Donc ça, c'est important. Parce qu'il y a encore même des gens, on apprend, j'ai appris récemment qu'il y avait un propriétaire à Saint-Étienne-l'Ardérolles qui n'avait pas vendu, qui ne voulait pas vendre et qui se sentait seul en fait. Donc j'appelle tous les gens qui ont des connaissances par le bouche à oreille à prendre contact avec la lutte des sucs. Parce que nous, à travers cette lutte des sucs et à travers aussi France Nature Environnement, on a un contexte juridique où on peut aider ces propriétaires. À lutter et à garder leur terrain par rapport à ça.
Oui, mais alors, simplement, on l'a vu par d'autres grands projets. Est-ce que c'est véritablement une solution ? Parce que même s'ils ne souhaitent pas vendre, à un moment donné, il y a la question d'expropriation qui peut se poser aussi. On l'a vu par d'autres chantiers en région.
Il faut savoir que quand même que le chantier de la 45 s'est arrêté, entre autres, pour une histoire de foncier aussi, quand même.
Oui, mais le grand stade Lyon, pour exemple, donc, a aussi été...
Voilà. Donc, à moins de faire quand même une nouvelle DUP, peut-être Ils n'auront pas les terrains. Après, nous, une déclaration d'utilité publique, on est peut-être optimiste, mais ne nous fait pas peur. Parce que dans la DUP de 1997, il n'y a aucun bilan carbone qui a été pris en compte. Actuellement, évidemment qu'on le prendra en compte. Il y a des contraintes environnementales maintenant qui vont rentrer en jeu. Je ne sais pas, mais à l'heure où on entend tous les grands discours lutter contre le réchauffement climatique, ça serait quand même incroyable qu'ils obtiennent une DUP, même si on sait que nous sommes le pot de terre contre le pot de fer. Mais quand même, on se dit que d'ici là, on est aussi très optimiste sur les recours en justice qui vont... Alors c'est long, le problème c'est que le temps de la justice n'est pas le temps de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un petit peu ça qui est embêtant. C'est que la justice, en espérant quand même qu'elle soit indépendante, va rentrer toutes ces questions environnementales dans sa décision. Et nous, c'est là-dessus qu'on porte sur le fond. On voit actuellement des projets qui sont abandonnés parce que la justice a donné raison aux associations environnementales, écologistes. Voilà. Après, en effet, en même temps, il y a un travail parallèle à faire, bien sûr, pour trouver des solutions alternatives, de toute façon.
Alors, peut-être on peut justement aborder ces solutions que la lutte des SUC propose et défend. Sur quel positionnement, justement, vous êtes concernant cette alternative à ce projet de déviation ?
Alors, un des premiers points, c'est le fait de faire en sorte de baisser la fréquentation sur cette route. Aujourd'hui, il y a des transports en commun extrêmement limités en Haute-Loire, notamment les bus. Il faut savoir qu'entre Yssingeau, troisième ville du département, et la préfecture, il y a un trajet le matin, un trajet le soir en bus. Donc d'accord. Ce n'est pas une offre.
Développer le transport collectif.
Tout à fait, développer le transport collectif. En fait, les déplacements en Haute-Loire se font essentiellement en voiture individuelle et autour de deux grands axes qui sont la RN102 et la RN88, qui est... A priori, dans ce contexte-là, le transport collectif est vraiment un élément fédérateur puisque c'est essentiellement du cadencement travail-maison et sur deux grands axes. Donc il n'y a rien de plus facile de mettre en place du transport collectif assez facilement. Donc mettre plus de bus sur Monistrol, Saint-Étienne, Le Puy, c'est déjà faire baisser la fréquentation. Ensuite, il y a une autre façon, c'est on a des rails qui sont toutes neuves entre Le Puy et Saint-Étienne. Et par contre, on met 1h30 en train pour faire Le Puy-Saint-Étienne, alors qu'on met 1h05 en voiture. Donc ce qu'on propose, nous, c'est de rajouter, pareil, dans le cadencement de la journée, c'est deux ou trois trains rapides qui s'arrêteraient que dans quelques gares, trois gares, pour mettre le Puy à Saint-Étienne à 1h10, ce qui serait complètement concurrentiel avec la voiture. Donc ça, c'est possible et ça demande aujourd'hui 16 millions d'euros pour créer deux gares de croisement pour que ces navettes rapides puissent s'inclure dans le cadencement déjà effectif aujourd'hui. Donc voilà, ça permettrait vraiment de faire baisser la fréquentation. Ensuite, il faut savoir que il y a beaucoup de camions qui empruntent cette route pour amener beaucoup de choses au puits. Et jusque dans les années 80, par exemple, il y avait encore des lignes de fret qui sont aujourd'hui stoppées. Donc là aussi, on pourrait assez facilement remettre du fret et donc pour faire notamment arriver le carburant, des denrées alimentaires au puits pour limiter les camions. On sait que ça suffit pas par rapport aux problématiques des traversées de ces villages. Alors il y a deux aspects, il y a la traversée du Pertuis, où aujourd'hui la vie du village est tournée autour de cette RN88. La boulangerie, le garage, le pompiste, les salaisons, le bar-restaurant, ils vivent grâce à cette route nationale 88. Donc le fait de faire passer à côté, ça risque de tuer cette vie de village, puisque la plupart des commerces sont voués à aller sur une espèce de village-service qui a été promis et pas chiffré, là encore, par la région. Et du coup, ça veut dire que le village se viderait de ses commerces pour aller se mettre sur une espèce d'aire d'autoroute au bord d'un échangeur. Et ça veut dire que les habitants du Pertuis du Bourg devront prendre leur voiture pour aller chercher leur pain, par exemple, pour aller boire un coup au bar. Donc c'est complètement illogique aujourd'hui, ce genre de pensée d'aménagement du territoire. Alors après, donc là, on se dit qu'il faut que la route continue à passer au Pertuis. C'est un col, c'est l'entrée historique de la Haute-Loire, c'est le symbole. Donc pourquoi pas imaginer là une voie spéciale pour les camions, pourquoi pas une tranchée couverte par exemple pour les camions qui traverseraient le bourg sans avoir du coup les nuisances. Donc ça serait une tranchée couverte qui ferait 300 mètres par exemple, spécialement pour les camions. Et les voitures en moins nombreuses pourraient profiter des commerces du Pertuis. Saint-Eustien, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup moins de commerces dans le bourg. Et du coup, il y a des virages, il y a l'école qui est pas loin de la route nationale. Donc là, on se dit que pourquoi pas envisager une mini-déviation, soit que pour les camions, soit pour tout le monde. Mais voilà, une déviation qui ferait 1 km, 1,5 km, qui aurait beaucoup moins d'impact que ces fameux 10,5
km. Moins d'impact, moindre coût.
Voilà. Et du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur cette route nationale 88, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour l'améliorer depuis 30 ans, puisqu'il y avait ce projet de déviation. Il n'y a pas eu d'aménagement de sécurité, il n'y a pas eu d'aménagement de murs anti-bruit, il n'y a pas eu... Donc le tracé actuel a été oublié, en fait. Donc si on mettait un peu de moyens pour l'améliorer, eh ben ça serait pas mal pour tout le
monde.
C'est
aussi une partie des solutions. D'accord.
Nathalie. Oui, alors j'appuie aussi parce qu'en tant qu'habitante du Pertuis, je peux même chiffrer. Donc comme dit Renaud, c'est un col, c'est le passage. Les gens traversent actuellement aussi à 50 km par heure. Nous, on est aussi pour débaisser encore. Hein. En ville, on passe à 30 km par heure. En plus, ça permet aux gens de dire « Tiens, on va boire un café. On a une boulangerie qui est très renommée. Manger un petit croissant. » Et il y a actuellement 25 personnes qui travaillent dans tous les commerces du Pertuis. Sur 380 habitants, c'est énorme, 25 personnes voilà, qui peuvent aller travailler à pied voilà, dans ces commerces. Donc, au niveau des commerces, en effet, nous, on se pose beaucoup la question. C'est un village qui est vivant. Par contre, pour y habiter aussi, c'est un village, si on regarde, en fait... moi, je prends la route tous les jours. Hein, je pars à 7h15 le matin. Et c'est vrai qu'à 7h15, on va dire qu'entre 7h30 et 8h30, il y a de l'affluence. C'est vrai. Rebelote le soir, on va dire entre 17h30 et 18h30, il y a du monde sur la route. On a du mal à traverser à pied. Mais après, dans la journée, je ne travaille pas le mercredi après-midi. Quand je vais à la salaison ou à la boucherie à 16h, il n'y a plus personne sur cette route. Quelques camions. Le samedi, comme disait Renaud, c'est vraiment du trafic de quotidien, de gens qui vont au travail. Le samedi après-midi, il n'y a pas grand monde non plus. Alors, en dehors, évidemment, des deux grands week-ends Pentecôte et l'Ascension, où on sait le bazar, mais dépenser 226 millions d'euros, détruire 150 hectares de forêt pour deux week-ends, voilà. Donc, c'est vraiment là qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble à tous les acteurs, les gens qui subissent les nuisances, et puis par rapport à ces déportations. Et il faut savoir aussi qu'on est quand même deux petits villages. Il y a les gens qui sont le long de la Nationale. Alors, à Saint-Eustien, quand on traverse, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui habitent le long de la Nationale. Il y a beaucoup de maisons fermées, mais il y a encore des gens, hein, faut pas les oublier. Mais en déportant la route, ça va en fait impacter encore plus de gens. Par contre, je connais des gens qui habitent sur les abords de Saint-Eustien. En déportant la route, ça va aussi impacter d'autres gens. Voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble aux besoins, au fait, du territoire. Mais en tout cas, ce projet qui est vieux, là, qui est vraiment vieux, doit être mis sur la table correctement.
Qui est vieux, voire passéiste, on l'a compris. Alors, de la réflexion, de l'information, c'est tout ce que vous menez, la lutte des sucs, depuis déjà quelques temps. Donc, différents leviers, vous l'avez dit, hein, juridiques, à la fois le foncier, donc aussi sur essayer de... Eh bien, pouvoir occuper, finalement, aussi les terrains. Quelles seraient peut-être les perspectives en termes de mobilisation ? Il y a eu des événements passés. Vous avez organisé des journées de manifestation, de mobilisation, encore fin août, avec la montée...
La montée du Mézin.
La montée du Mézin par Laurent Wauquiez, que vous êtes allé rencontrer là-bas sur site, sur place. Qu'est-ce qui est envisagé ou envisageable ? On a beaucoup vu, hein, sur les grands projets inutiles et imposés, des mobilisations et occupations de type permanente même, hein, des ZAD, pour le dire, parce que c'est des choses qui sont... envisagé ou non là-haut sur le secteur ?
Alors, on ne se laisse pas abattre. On a encore de l'espoir, puisque il y a ces fameux terrains non acquis, il y a ces questions juridiques. Maintenant, on a déjà fait de la concertation avec les habitants. On veut remettre un bon coup là-dessus, sur ce dossier-là, leur présenter nos alternatives, réfléchir ensemble à améliorer l'existant plutôt que de faire autre chose. Donc, comme vous l'avez dit, on a déjà fait des manifestations, mais on va en refaire. L'idée de l'occupation des terrains n'est pas complètement éludée. On se dit que si malgré toutes les tentatives juridiques, administratives, on n'arrive pas à venir à notre but, quoi. Eh bien, l'idée de l'occupation est toujours possible. L'idée de continuer à mobiliser très fortement, comme ça a été le cas ici sur la 45, faire des week-ends où on montre qu'il y a 3000 personnes, jusqu'à 5000 personnes qui viennent et qui sont impliquées, ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc on fait partie de différents réseaux, notamment le réseau des soulèvements de la terre, qui représente un petit peu partout en France la lutte contre les grands projets inutiles. C'était le cas donc il n'y a pas si longtemps que ça autour des bassines en Charente-Maritime. On sait qu'il y aura une action aussi au mois de mars à Lyon, sûrement autour des questions de Monsanto. On a fait partie aussi d'un réseau contre la réintoxication du monde. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a lancé notre action le 17 juin 2020, puisque c'était après le Covid où on s'était rendu compte que finalement, aller moins vite, ça faisait aussi du bien. Et que dès qu'on était sorti du confinement, en fait, on a relancé la machine comme avant, malgré les grandes promesses de résilience, etc. On s'est rendu compte que la machine était repartie pour les bénéfices, pour le capitalisme, pour tout ça, pour faire encore de la croissance à outrance. Et donc, il y a un mouvement qui s'est créé contre la réintoxication du monde et pour faire prendre conscience qu'il faut peut-être aujourd'hui ralentir et penser un peu plus à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, on sait que ces questions climatiques, d'extinction de la biodiversité sont primordiales et nous impactent tous les jours dans notre vie quotidienne.
Très bien, on va suivre attentivement ce dossier et cette agenda à venir. Merci Renaud Domas, merci Nathalie Collet. On renvoie sur votre blog, la lutte des sucres, tout accroché en minuscule au pluriel, .noblog.org, où vous
le Facebook et tenez aussi, à jour. Lutte des sucres, vous tapez lutte des sucres en moteur de recherche, il ressort automatiquement. Comme l'a dit Renaud, donc on invite beaucoup de gens parce que c'est pas que les habitants du Pertuis de Saint-Aucien, c'est vraiment un problème de choix de société là, à l'heure qu'il est, qu'on doit se poser comme question. Donc ça, c'est vraiment important.
On va laisser place aux questions, si vous le voulez bien, pour terminer cette rencontre. Il y a une question juste ici, également de ce côté. On va peut-être prendre les deux témoignages ou questions ou remarques.
Oui, bonjour, Sylvie Bottinelli, je suis au CA de l'association Prime Vert. Et la semaine dernière en CA, on s'est dit que pour le salon de fin février, comme grand projet inutile, on aimerait bien avoir la lutte des sucres et leur offrir une grosse plateforme. On espère qu'ils seront... Voilà.
Voilà, l'invitation est lancée.
On sera là.
Prime Vert, c'est bien sûr le pendant lyonnais de Tatou Juste, en quelque sorte, le grand salon des rencontres de l'écologie à Lyon, le dernier week-end de février. Merci.
Du coup, vous m'entendez, c'est bon ?
Oui.
Pour rebondir là-dessus, la dame, je veux dire, s'il y a un espace qui va être dédié pour la lutte des sucres, je pense que ça sera bien avant un espace dédié tout simplement pour les ZAD, pour pouvoir aussi se coordonner, parce qu'il y en a de plus en plus en France. D'ailleurs, moi, je n'avais pas les infos du coup de ce qui s'y passe chez vous. Ça me rappelle énormément l'affaire du TGV Lyon-Turin, qui dure aussi depuis plus de 30 ans, exactement la même configuration, exactement la même somme d'argent. Moi, ma première question, donc ce personnage, par exemple, Wauquiez, parce que là, précisément, concrètement, moi, je vous trouve tellement gentil quand je vous entends expliquer juridiquement la biodiversité, voyez, vous expliquez les choses. Mais en face de nous, je n'ai pas l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin d'explications, mais je pense qu'ils ont plutôt besoin de pression. Et que des personnages comme Laurent Wauquiez, si peut-être il avait un peu plus du mal à dormir, parce qu'il détruit tout simplement la planète et qu'il fait du business, il utilise l'argent public comme si c'était son argent, et qu'il décide de donner et ne pas le donner, peut-être que c'est là aussi qu'on a... Peut-être là, il va falloir réfléchir. Plus réfléchir aux alternatives. Parce que souvent, par exemple, sur les forêts de Chambaran, par rapport à Roibon, on disait, vous voulez quoi comme alternative ? Mais en fait, on n'en veut pas. Laissez juste, tranquille, la vie se faire aussi. Donc, il fait que c'est toujours... vous, je vois du coup le travail que ça a dû demander, encore une fois, c'est que du travail, mais je me dis, ce travail-là, bah, c'est bien, on le mène pour que tout le monde l'entende, le combat, et qu'ils comprennent pourquoi c'est pas bon. Mais derrière, en face de nous, on a effectivement des lobbies qui ne bougent pas d'un doigt. Donc effectivement, moi, je pense que, en tout cas, la coordination des soulèvements de la terre est une bonne chose. Et je pense qu'il en faut petit à petit un peu plus, surtout au niveau régional. Voilà, donc en tout cas, j'espère qu'au niveau régional, on se coordonnera de mieux en mieux.
Merci pour cette remarque. Est-ce que vous souhaitez réagir ou...
Oui. Oui, bah oui, on est totalement dans cette logique aujourd'hui. Si on essaie de mettre en place tout ce qu'on pouvait faire en sorte de faire avant d'éviter l'occupation sur le terrain, tout ça. Mais on sait qu'aujourd'hui, on a travaillé déjà avec les gens de la 45, on a eu des échanges avec les gens du Center Park de Roibon. On sait que voilà, c'est aussi l'utilité qu'on soit là aujourd'hui, c'est faire un appel là, ici, aux Stéphanois pour nous dire attention, soyez sur le qui-vive. Le jour où il y a une mobilisation, il faudra qu'on soit nombreux. Donc notamment sur notre blog, on peut s'abonner à une liste de diffusion, ce qui permet de pouvoir répondre à nos alertes mobilisées. Et la demande qu'on a fait auprès du Salon Prime Vert pour pouvoir aller voir auprès des Lyonnais pour pouvoir communiquer à fond sur ce qui va se passer. On n'espère pas, mais ce qui pourrait potentiellement se passer au second trimestre 2022, là aussi, il faudra qu'on soit extrêmement nombreux pour défendre notre territoire et défendre un modèle de société qui est autre que ce que l'on veut nous imposer aujourd'hui, quoi.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou interventions demandées ? Non ? Merci beaucoup d'être venu suivre cette rencontre-discussion. Merci Renaud et Nathalie à nouveau.
Merci.
C'est la fin de cette table ronde ou discussion autour de la lutte des sucs et de ce projet de déviation. Il sera question de terre encore tout à l'heure. On le rappelle, il y a une conférence cet après-midi, La Terre et nous. Alors il va précisément être question justement aussi de ces problématiques. La Terre et nous par Roland Albignac. C'est une conférence attendue à 14h à l'espace conférence, mais il sera ici sur l'espace radio à partir de 13h15. Voilà, ce sera le prochain rendez-vous ici radiophonique. Merci encore à vous, vous souhaitant tout d'abord une bonne fin de journée, mais surtout du courage et de la force pour la suite de la lutte.
Merci pour l'invitation aussi.
Merci beaucoup.